J'avais envie de proposer une courte vidéo pour préciser en quoi, selon moi, le tantra se différencie des approches psychothérapeutiques et de développement personnel. Cette précision me paraît nécessaire dans la mesure où on voit souvent apparaître des confusions entre ces différents champs, que les mêmes personnes souvent vont fréquenter des ateliers de développement personnel, vont suivre des thérapies en individuel ou en groupe et vont participer à des stages de tantra, de méditation, dans un champ dit de développement spirituel, de travail spirituel. Sur un certain plan, on pourrait dire que ces trois démarches représentent trois temps d'un développement. Travail de psychothérapie pour guérir les blessures, pour restructurer une personnalité devenue vacillante du fait de traumatismes, de blessures, etc. Ensuite, le champ du développement personnel pour, dans la lignée de ce travail, raffermir l'ego, lui donner de nouveaux outils, donner de nouvelles orientations, unifier. Des tendances contradictoires éventuellement. Et puis le champ de la spiritualité, de la non-dualité, du tantrisme, de la méditation, etc., qui normalement, en tout cas si on s'en réfère aux traditions, ne vise plus à affermir l'ego ou à le développer, mais plutôt à le transcender. Et je détaillerai un petit peu plus loin ce que j'entends par transcender l'ego, puisqu'il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit à la structure de la personnalité. Sur un autre plan, on pourrait dire que ces démarches sont presque opposées, en tout cas en termes d'outils, en termes d'objectifs. Si dans un travail de psychothérapie ou de développement personnel, il va s'agir d'apporter à la personnalité, à la personne, un cadre, un contexte et des structures visant à la sécuriser et lui permettre de trouver sa pleine expansion. Au contraire, dans le travail spirituel, on ne va pas du tout chercher à jouer sur les circonstances, sur le contexte. En particulier dans le champ du tantrisme, qui est une voie donc de la non-dualité, et dont l'une des caractéristiques est d'inviter à faire le travail là où on est, dans l'expérience, ici maintenant, indépendamment d'un cadre déterminé, ascétique, monastique, communautaire, de règles de vie ou d'injonctions physiologiques, émotionnelles ou cognitives. Tantra, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, se différencie de beaucoup d'écoles mystiques par son invitation précisément à rester là où on est et à faire le travail de prise de conscience, de détachement et de désidentification à l'endroit précis où je rencontre une difficulté, un inconfort, une blessure, une souffrance. Qu'on comprend bien que ce qui était une nécessité dans le travail thérapeutique, donc à savoir sécuriser la personnalité, lui donner de nouveaux outils, de nouveaux axes de liberté, la mettre en congruence avec ses désirs profonds, jouer avec finalement cette idée, ce concept de responsabilité personnelle, reprendre ma responsabilité dans ce que je vis, donc pour ne plus être victime mais devenir acteur. Tout ce champ, tout cet imaginaire finalement de la responsabilité individuelle va être un contexte nécessaire et vital pour le travail de la personne en souffrance. Et la personne qui participe à des stages de développement personnel visant à développer plus d'écoute, plus de présence à elle-même, plus d'empathie, de capacité de communication. Tout ça, on est toujours dans ce prolongement d'une certaine idée de perfectionnement de soi, mais du soi personnel. On peut d'ailleurs s'interroger sur le fait que peut-être que le milieu du développement personnel, comme son nom l'indique, est peut-être l'un des milieux les plus égocentriques qui soient. Et c'est dit sans condamnation ou sans jugement. Mais c'est intéressant à voir dans la mesure où ces milieux sont souvent identifiés à des approches dites spirituelles. Et tant que je suis dans une démarche de perfectionnement de ma personne, tant que je cherche à m'approprier des compétences, des savoirs, tant que je cherche à dépasser une souffrance personnelle, à faire mieux, à répondre à des injonctions, à des idéaux, même si ces injonctions, ces idéaux viennent de ma structure profonde, je reste dans une démarche personnelle, existentielle. On est vraiment dans le plan de la relation à soi, aux autres, au monde, donc dans le plan de l'horizontalité. Les démarches dites spirituelles, hein, ça n'a pas grand sens de distinguer quelque chose qui serait spirituel ou pas spirituel, mais disons les démarches visant à travailler plutôt sur la dimension de l'être, vont à contrario se caractériser par focalisation sur le temps présent, sur ce qui est vécu. Et là, on va comprendre que, à l'inverse de la démarche thérapeutique, ce qui a été aidant, ce qui était nécessaire, ce qui était vital, sécurisant dans cette démarche, à savoir un cadre, un contexte bien déterminé, des règles de fonctionnement, des garanties de bienveillance, etc. Tout ce qui finalement contribue à créer une forme de cocon, un espace clos, séparé du monde réel, extérieur, à permettre à cette structure de se réparer, en tout cas de trouver plus d'outils, d'affirmations, de révéler son potentiel. Tout ça va devenir encombrant dans le cadre de la démarche tantrique. Parce que finalement, le travail va commencer lorsque je vais sortir de ma zone de confort, dans ma zone de contentement, de plaisir. Dans l'approche non duelle, tout ce qui faisait le confort, tout ce qui faisait le contentement de la personne, va à l'inverse devenir ce que presque je devrais fuir ou redouter. Tout ce qui va me faire stagner finalement dans une forme de contentement, de joie illusoire, d'apathie, d'un état tamasique quelque part, plutôt obscur. Et à l'inverse, tout ce qui va venir me titiller, me blesser, me challenger, me questionner, m'inquiéter, voire me terroriser, va être à chaque fois une invitation à prendre conscience de la manière dont je me coupe de la joie, de la beauté ou de la justesse de l'instant. Finalement, tant que je suis dans un état de contentement, je suis dans cet état de plénitude, rien ne me manque, tout est là. Cet état peut être mis en danger par un événement extérieur, c'est que quelque part, il y avait un endroit où c'était pas si clair. Donc dans la démarche tantrique, sans chercher à aller sous les cailloux, sans chercher à se faire mal, mais simplement dans une logique finalement opportuniste. Voilà, je suis dans telle ou telle situation et tel événement advient qui vient, événement intérieur ou extérieur, hein, un événement émotionnel, un événement physique, matériel, physiologique, une maladie, le décès d'un proche, etc. Quelque chose va venir m'insécuriser. Et à cet endroit-là, l'invitation, en tout cas de ces démarches de la non-dualité, va être d'essayer de, dans la mesure du possible évidemment, de rester un peu avec, avec ce qui est en train de se resserrer là. Et de sentir, à la fois corporellement, affectivement et mentalement, à quel endroit je résiste à l'expérience qui m'est proposée là maintenant. Et ça va être possible hein, dans la mesure où je vais pouvoir me connecter à quelque chose de beaucoup plus vaste que l'expérience elle-même. Traverser un tourbillon, une zone agitée, un vortex. Je ne vais pas rester identifié au vortex ou à l'endroit de la souffrance. Je vais sentir cette souffrance, mais dans un espace beaucoup plus vaste de connexion à ce qui est autour. Sentir que tout mon environnement est et plein de ressources dès lors que je m'ouvre à ces ressources, que je ne me focalise pas sur le lieu de la souffrance, là, ici, maintenant. Si on me frappe sur le bout du doigt avec un marteau, je vais hurler de douleur, peut-être me laisser déborder, parce que je vais mettre toute ma conscience au bout de ce doigt. Pourtant, 99% de mon corps va bien. Alors si je reste connecté à l'ensemble de mon corps qui va bien, qui est transparent, qui est fluide, qui est en harmonie, que je m'imprègne de cette harmonie, alors je peux revenir à la souffrance au bout du doigt et laisser cette souffrance comme ça diffuser. Là, c'est une manière métaphorique de le décrire à un endroit du corps physique. Et on peut faire cette pratique avec n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle circonstance, en fonction de ce à quoi je m'identifie. Alors, si je crois que mon corps s'arrête à la peau, effectivement, tout ce qui va mettre en danger l'intégrité physique de ce corps, ça va être indépassable. Si je commence à sentir que mon corps ne s'arrête pas là, que mon corps c'est tout ce que je peux sentir, que la relation que j'ai avec mes membres, avec mes organes intérieurs, n'est pas fondamentalement différente de la relation que je peux avoir avec un objet extérieur. C'est simplement la modalité sensorielle avec laquelle j'interagis avec lui qui est différente. Je vois un objet posé sur cette table devant moi. Et je vois ma main. J'ai un contact sensoriel avec l'objet. Et juste aussi deux pensées différentes rattachées à ces deux objets. la pensée que c'est moi qui fais bouger ma main, et la pensée que l'objet immobile à l'extérieur n'est pas moi, que je n'ai aucune action directe sur lui. En fait, on prend conscience, lorsqu'on fait ce travail, que ce n'est pas mon intention personnelle, ma volonté personnelle qui déplace ma main. Il y a le déplacement et il y a la pensée. Et la pensée, je choisis de déplacer ma main. Mais fondamentalement, il y a expérience sensorielle et pensée. Mon corps est beaucoup plus vaste que ce que je délimite par ma surface capillaire. Et si je commence à pouvoir sentir mon environnement, sentir que mon corps va bien au-delà de ces limites-là, alors je vais aussi pouvoir laisser se dissoudre les agressions les plus violentes, y compris contre ce corps. Ce que j'aperçois comme des agressions, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel ou sur le plan intellectuel. Finalement, on pourrait dire que je ne peux souffrir psychologiquement qu'en fonction de ce à quoi je me suis identifié. Si je me crois chrétien et que je crois que la réalité est parfaitement décrite par cette tradition-là, cette formulation, je vais me sentir agressé lorsque une personne va attaquer le christianisme. Si je ne me sens pas chrétien, ce discours peut me laisser complètement indifférent. Et c'est la même chose qu'on parle de masculin, de féminin. On parle de classe sociale, de métier, d'activité, d'idées. À l'origine de toute souffrance psychologique, il y a un attachement, une identification à une partie de mon expérience. Que cette expérience soit sensorielle, ce corps que je vois là, que je perçois, que je sens, que j'entends, mais aussi une idée qui s'est incarnée matériellement aussi dans différents objets, dans différentes personnes, à travers différents symboles. Ma souffrance ne vient que de ma prétention à vouloir faire advenir, défendre, souffrance finalement ne vient que d'une chose, c'est de m'identifier. La souffrance ne vient que de ma prétention à savoir ce qui est juste ou non par rapport à ce à quoi je m'identifie. Mais sur un certain plan, je ne veux plus voir que des relations entre des objets qui apparaissent dans le champ de conscience. Entre cette personne et cette personne, entre cet objet et cette personne, entre ces deux objets. Donc voilà que cette démarche de désidentification est totalement contradictoire avec celle de l'approche thérapeutique ou de développement personnel qui vise au contraire à raffermir cette identification. On pourrait dire que il est nécessaire de faire ce travail thérapeutique avant tout travail réellement tantrique. Ou alors c'est le travail psychiatrique qui va peut-être suivre le travail spirituel. Parce qu'on regroupe les gens dans ces séminaires de tantra. Il arrive parfois que des participants se rebellent contre certaines propositions. Un tel va pas supporter telle ou telle musique, un tel trouvera que telle proposition ne lui convient pas, etc. Comme si l'espace proposé avait pour objet de satisfaire un désir ou une attente. La seule intention que nous avons en tant qu'animateur, en tant qu'instructeur en tantra, si on avait une, ce serait simplement de se mettre à l'écoute de ce qui est là, parmi les participants, de soi à soi. Simplement de d'aider à mettre en lumière ce qui est présent, en termes de résistance, en termes de non, en termes de figement, en termes de savoir. Et de là, une confusion souvent entretenue également, en lien avec le plaisir. Question du désir, du plaisir qui sont souvent au cœur des présentations du tantra. Comme si le tantra était une voie hédoniste qui visait à développer, à amplifier le plaisir. Et on voit même certaines écoles de psychothérapie ou d'élan personnel, mettre l'accent sur le plaisir, le plaisir, le plaisir, et condamner d'autant tout ce qui peut être de l'ordre des frustrations, des restrictions, des agressions contre la structure égotique, contre l'intégrité physique. Il y a là une confusion qui m'apparaît dangereuse. Parce que dans cette démarche de courir permanence après plus de plaisir, il y a une forme d'enfermement dans la zone de confort de la personnalité. Il n'y a pas de dépassement à un endroit. Il n'y a pas d'apprentissage sans quelque part un moment d'inquiétude ou d'inconnu. Et par définition, la personnalité a peur de ce qu'elle ne connaît pas. Parce que la personnalité fonctionne uniquement sur les mémoires du passé. On pourrait dire que l'ego n'est que l'ensemble des mémoires qui se sont agrégées comme ça. Donc il n'y a pas réellement d'existence, c'est juste un ensemble agrégé de pensées qui se considèrent comme formant un tout. Et ces pensées étant tellement, tellement présentes depuis que on m'a donné un nom, un prénom, que je perçois la réalité à travers cet amas de pensées et d'agrégats. Donc la personnalité n'est constituée que du connu, que de la mémoire. Et la personnalité ne construit ses désirs et ses peurs qu'à partir des expériences antérieures. Donc par essence, la personnalité est limitée au passé. Elle ne peut pas s'ouvrir volontairement d'un point de vue. Je veux dire, du point de vue d'une volonté personnelle, elle ne peut que vouloir répéter ce qu'elle a connu et apprécié, et fuir ce qu'elle a connu et qui lui a causé de la souffrance à un moment donné. Donc la personnalité ne cherche que le confort, y compris quand ce confort implique un inconfort. Mais quelquefois, c'est l'inconfort qui est confortable, parce qu'il est connu. Ce qu'on trouve chez les personnes qui ont été blessées, abusées, etc., par exemple, qui vont avoir tendance à reproduire les situations dans lesquelles elles ont connu cet inconfort, mais au moins elles le connaissent. Alors qu'à contrario, quelque chose de plus doux, de plus apaisant va être inconfortable et insupportable pour la personnalité. Donc la personnalité ne peut pas se transcender elle-même. Et donc la recherche du plaisir ou la quête du plaisir ou aller dans le sens du désir personnel ne peut que renforcer cette structure égotique et donc la souffrance de l'enfermement. La différence entre le désir personnel et le désir, on pourrait dire avec un grand D, tel que on le décrit dans la tradition tantrique, c'est que le désir impersonnel dans la tradition tantrique ne porte pas d'enjeu. La libération, elle est dans le désir de ce qui est là exactement là maintenant. Et mon désir réalise, actualise la situation telle qu'elle est là maintenant. Ce n'est pas le désir d'un état futur ou d'un projet ou d'un devenir. Ça serait, c'est une forme de non déguisé à ce qui est là. La croyance qu'il manque quelque chose, qu'il y a un besoin qui est inassouvi là maintenant. Donc le désir dans la tradition tantrique, on va le différencier du désir personnel par le fait qu'il est sans enjeu. C'est comme un élan dans l'instant, peut-être porté comme ça dans une direction, mais sans que ma joie soit conditionnée au résultat de l'action. Je me dépêche parce que je suis en retard fonctionnellement, et en même temps je suis tranquille profondément sur le fait que j'arriverai peut-être à l'heure, j'arriverai peut-être en retard. Il y a quelque chose qui ne dépendra pas de moi. La structure fait de son mieux en fonction de ses moyens, de ses capacités physiques, physiologiques, affectives, intellectuelles. Et elle est vivante dans cette expérience de sa limite. Il n'y a pas de tension psychologique à l'endroit du résultat de l'action ou de l'impulsion. Là, je suis dans le désir, au sens tantrique du terme. C'est-à-dire que je suis dans la vie, dans la pulsion vitale. Je ne suis pas dans la projection de quelque chose. Je ne suis pas dans la recherche d'un objet extérieur ou d'un résultat. Et c'est dans ce désir-là que je peux trouver ma liberté. Ma liberté, je la reconnais lorsque je fais l'expérience intime, corporelle, sensorielle. Je désire exactement ce qui est là. parce que j'ai laissé les agrégats intellectuels, les agrégats affectifs, les agrégats somatiques à l'intérieur. Ils font partie de mon champ d'expérience. Mais je ne vois plus la réalité à travers eux. Du coup, je ne crée plus un problème avec ce qui est là, exactement là. S'il fallait changer ne serait-ce qu'un aspect de la réalité ici maintenant, il faudrait changer tout l'univers. La structure causale de l'univers n'est pas du tout linéaire ou séquentielle comme on a tendance à le voir d'un point de vue naïf. Elle est holistique, au sens où c'est tous les événements du cosmos dans l'espace et dans le temps qui concourent exactement ici, maintenant, à créer cet instant-là et cette expérience. C'est pas du tout une séquence choisie arbitrairement à partir de ma petite perspective personnelle. Du coup, je ne peux que dire oui ou dire non à la totalité. Si je dis non à l'expérience que je vis là, maintenant, je dis non à tout l'univers, donc à l'être et à tout ce qui est. Et quand je dis oui, je dis oui à tout ce qui est ici, maintenant, dans tout l'univers, du fin fond du cosmos jusqu'à la nuit des temps. C'est juste à sentir. Y a pas une expérience qui a plus de valeur que l'autre. La conscience est là pour faire toutes les expériences, que ce soit des expériences de non, des expériences de oui. Mais les approches orienté vers la recherche de toujours plus de plaisir personnel, de développement de capacité, de contentement, de puissance. Ces approches-là portent en elles-mêmes leur propre drame, leur propre terreur, leur propre enfermement. Parce que je n'aurai jamais la garantie, la certitude que je pourrais garder. Et je suis toujours dans la fuite. Quelque chose en courant après une autre. D'ailleurs, je suis le jouet des situations. Je suis le jouet des contextes, intérieurs, extérieurs. Je me raconte que certaines choses dépendent de moi et d'autres pas, alors que la personnalité n'a aucun pouvoir. Juste celui de répéter ses conditionnements et ses mémoires. C'est en ce sens que, à un certain moment de maturation, de maturité existentielle, naturellement, il va y avoir une forme de lassitude, d'usure, qui va faire que je ne vais plus pouvoir me contenter de tourner dans cet espace-là. Alors, naturellement, par instant, il y aura un espace pour ouvrir l'expérience à autre chose. Et en particulier à un espace où la personnalité va être reconnue comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un agrégat de mémoire. Donc on pourrait dire que l'essentiel est de sentir de soi à soi, et également en tant qu'accompagnant, sentir quand est-ce que je suis prêt, quand est-ce que telle ou telle personne est prête pour faire ce travail tantrique. et on n'est probablement jamais prêt. Parce que si on l'était, le travail serait déjà fini. Dans les panthéons traditionnels du tantra, on représente beaucoup de déités courroucées, de démons, de monstres fabuleux, qui représentent à chaque fois l'adversité à l'intérieur qu'on a à dépasser, à transcender. La peur est la voie qui nous conduit à la tranquillité. Et à la paix. C'est le seul chemin que je ne peux pas prendre directement. Quand j'ai la chance de vivre une situation qui m'y confronte, est-ce que je peux rester un peu avec? Écouter ma limite, sentir si, voilà, je peux laisser cette peur se dissoudre un instant avant de reproduire le mécanisme de fuite ou de combat dans lequel ma personnalité s'enferme spontanément et par automatisme. Voilà, c'était quelques mots pour préciser ce qui, à mon sens, fait la différence essentielle entre les approches thérapeutiques du développement personnel et les approches tantriques non dualistes. En espérant que ces quelques mots résonneront, vous permettront vous-même aussi de sentir qu'est-ce qui vous appelle le plus aujourd'hui. Et sachant que évidemment rien n'est complètement séparé, mais c'est juste voilà deux orientations différentes. Sachant qu'effectivement, même dans un stage de tantra, on va être amené à avoir des démarches thérapeutiques ponctuellement en fonction de ce qui apparaît et des limites aussi de chaque participant. Voilà.